Vous savez, je m'étonne toujours de cette phrase « on ne peut plus rien dire ». D'abord parce que la plupart du temps, vous êtes au courant, ceux qui la prononcent viennent de dire ce qu'ils ne peuvent soi-disant pas dire. Mais surtout parce que je suis frappé, au contraire, aujourd'hui par l'injonction à dire, à tout dire, tout le temps, avec ce présupposé, ce qui est aussi une injonction, hein, qu'il faut tout dire pour aller mieux. Dire ses souffrances, dire ses traumas, dire son enfance, dire ses travers, en veux-tu, en voilà, et en toute transparence. Et je me souviens de cette conférence de Christine Angot à New York, où elle disait en substance que le réel, quel qu'il soit, il n'a pas besoin d'être raconté. Il est là, tout le temps, au passé, au futur, au présent. Et c'est sûrement pas parce qu'on libère sa parole qu'on s'en sortira, surtout si le commandement de parler nous vient des autres, pas de soi. Au fond, et c'est une vraie question, qui est-ce qu'on réconforte? Qui est-ce qu'on rassure? Qui est-ce qu'on soigne quand on dit tout fort ce qu'on a sur le cœur, mais pas forcément soi? Pensez-y peut-être parfois à la folie de cette phrase, on ne peut plus rien dire, non seulement parce que si, on peut tout dire, absolument tout, mais surtout parce qu'en vérité, il est de plus en plus difficile de ne rien dire du tout.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle place mon invité d'aujourd'hui accorde-t-il au silence? Il est cinéaste, révélé par Le Nom des gens avec Sarah Forestier. On lui doit également Télé Gaucho, La vie très privée de Monsieur Sim ou La lutte des classes. Son nouveau film sort aujourd'hui. C'est un documentaire sur un couple d'intellectuels résistants, pacifistes, avant-gardistes, surnommés Pingouin et Goéland, pardon, qui sous l'occupation ont fondé la maison d'enfants de Sèvres, un foyer pour orphelins de guerre où de nombreux enfants juifs ont trouvé refuge. C'est là, dans cette famille élargie, que sa mère a grandi. Et c'est autant son histoire que celle d'une aventure collective qu'il nous raconte dans ce très beau film. Bonjour Michel Leclerc.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, que c'est quelque chose que vous interrogez. Hein. Que faire de cette injonction à la parole, à dire, à raconter?
Oui, alors moi je suis vraiment dans une contradiction par rapport à ça, puisque je suis de cette génération issue de parents qui ne parlaient pas. Donc évidemment, j'ai été poussé à, j'ai l'impression, à la parole, mais en même temps, je me dis aujourd'hui, notamment en racontant cette histoire qui tourne beaucoup autour du silence qui est arrivé à ses enfants, et je suis toujours dans cette contradiction, à la fois d'avoir envie de parler et de me dire en même temps que c'est trahir quelque chose.
Oui, votre mère, par exemple, dont les parents sont morts dans les camps, votre mère juive, orpheline, arrivée à Sèvres alors qu'elle n'était qu'une enfant, elle parlait pas.
Non, de toute sa vie. De toute sa vie, elle n'a jamais parlé de ses parents.
Parce que la parole ne libère pas forcément.
Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'idée courante et majoritaire que la parole libère, mais elle peut aussi enfermer, elle peut aussi provoquer du ressassement. Moi je parle beaucoup de ces enfants qui sont arrivés à cette maison de Sèvres complètement traumatisés de ce qui leur était arrivé et qui n'ont jamais parlé de ce qui leur est arrivé et qui malgré tout sont parvenus pour la plupart à se réparer. Enfin, c'est pas une règle, mais c'est peut-être parce que c'était un endroit particulier, parce qu'ils ont reçu une éducation particulière qui les a tirés vers le haut, vers la vie.
Et c'est vrai que c'est le paradoxe de votre film, Michel Leclerc, et c'est un très beau paradoxe. D'un côté, on nous parle du droit pour certaines victimes d'oublier leur souffrance, de se taire, et de l'autre, c'est un film qui est tout entier dans le souvenir, dans la mémoire, dans la parole.
Bah oui, donc voilà, je suis tout entier dans cette contradiction de raconter en disant, mais finalement, c'est peut-être bien de se taire.
Au fond, le passé, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Le passé, ben pour moi, c'était comme un espèce de trou béant, puisque mes parents et aussi mon père, pour d'autres raisons, ne parlaient jamais de leurs parents. Donc j'avais l'impression d'être né d'une génération spontanée, c'est-à-dire comme si mes parents étaient nés un peu par miracle, comme dans les choux et les roses. Et donc voilà, le passé, c'était cette espèce de mystère, de trou. Et évidemment, quand il y a du mystère, on a envie d'aller voir.
D'ailleurs, dans le film, vous dites que les racines, il faudrait pouvoir les couper, il faudrait pouvoir s'en détacher. Mais est-ce que c'est seulement possible, Michel? Est-ce que l'histoire de celles et ceux qui nous ont précédés n'a pas toujours une influence sur ce qu'on est et sur ce qu'on devient surtout?
Si, mais je pense que c'est un chemin. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup aujourd'hui, en tout cas à l'âge que j'ai, que l'identité, c'est un chemin, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et on peut changer d'identité en cours de route. On peut avoir envie de mettre en avant quelque chose choses ou pas d'autres. On peut avoir envie de couper ses racines pour aller vers l'avant, vers l'avenir. Moi, j'aime bien cette idée-là.
Mais le silence dont on parlait, en quoi est-ce qu'il a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui?
Ben, je vous dis, c'est l'appel du vide. C'est-à-dire que moi, ce silence, j'ai voulu le combler, comme beaucoup de gens de ma génération.
Ça a pu vous empêcher d'avancer, d'aller vers l'avant?
Non, au contraire, je pense que ça m'a poussé vers l'extérieur. Ça m'a poussé vers l'écriture, c'est-à-dire quand il y a un trou devant, eh ben on a envie de dessiner pour combler ce trou et c'est comme ça pour moi que j'ai eu envie de raconter et raconter de la fiction puisqu'on m'a pas raconté les choses, j'avais envie de les inventer.
Vous dites que du vivant de votre mère, vous n'auriez pas pu le faire ce film.
C'était difficile parce que je pense qu'elle je me voyais pas par exemple l'interviewer ou des choses comme ça et je me voyais pas faire ce film sans parler de son histoire, ça aurait été pas honnête.
Peut-être qu'il faut nous raconter comment votre mère est-elle arrivée à la maison d'enfants de Sèvres.
Ben, elle, d'après ce que je sais, c'est que donc ses parents ont été déportés en novembre 42, et puis plus d'un an après, en fait, elle arrive. Et c'est tout ce que je sais, c'est-à-dire qu'entre les deux, je sais rien. Mais plus d'un an après, elle arrive amenée par Marcel Marceau. Ce que j'ai appris en cours de route parce que je ne le savais pas du tout et ma mère ne m'a jamais parlé de cette histoire. Mais j'ai prend à travers une interview de Marcel Marceau qui donne à France Culture dans les années 70, qui l'amène ma mère toute petite qui a 8 ans à la maison de Sèvres en février 44.
Et quelle famille est-ce qu'elle a trouvée là-bas?
Elle a trouvé des sœurs, c'est-à-dire que c'est, elle a trouvé des sœurs en malheur, je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait dans cette maison de Sèvres pas seulement des enfants juifs, mais des enfants tous de la guerre. C'est-à-dire que par exemple, elle avait sa copine Simone, dont les parents étaient morts lors d'un bombardement allié, tout ça. Et elles se sont tenues les coudes toute leur vie. Elles ont construit clairement une nouvelle famille assez rigolote, assez et voilà et toute leur vie elles se sont vues, elles se sont soutenues, elles se sont aimées, elles étaient tout un groupe et elles ont vécu des tonnes de choses ensemble.
Et vous la filmez cette famille, c'est assez merveilleux parce que le film est entièrement, et vous le dites dès le départ, sous le signe du rire, Michel Leclerc. Le devoir de mémoire, cette expression que vous n'aimez pas beaucoup,
non.
Je le sais, que vous interrogiez déjà dans Le Nom des gens il y a 10 ans, ça signifie quoi pour vous?
Ben c'est le mot devoir que j'aime pas. On est obligé à rien. Je me souviens par exemple dans Le Nom des gens, je parlais de ces plaques qu'on met en hommage aux enfants assassinés devant les écoles. Et je me disais mais pourquoi se souvenir des choses aussi horribles? Est-ce qu'on peut pas se souvenir des belles choses? Est-ce que c'est tout le sens de mon film, c'est-à-dire d'être du côté de la vie. C'est-à-dire qu'au lieu vraiment, je savais que je voulais pas faire un film mortifère. C'est quoi l'inverse de mortifère? C'est un film vivifère, je sais pas. C'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment du côté de la curiosité, du côté du plaisir, du côté de la vie. Et c'est ça, en fait, la leçon de cet endroit, la maison de Sèvres, c'est que c'était un endroit qui était du côté de la vie.
Celle qui est un peu trop dans la vie, dans cette émission, vous la connaissez, Michel.
C'est pas la culture?
C'est évidemment la culture. Parfois, on aimerait qu'elle soit de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 3 novembre? En attendant, le Goncourt, le très prescripteur, prix du Quai des Orfèvres, a été remis hier à l'autrice Véronique de Haas pour son roman La Muse Rouge, publié aujourd'hui aux éditions Fayard. Le prix décerné par un jury de magistrats, de policiers et de journalistes récompense chaque année un manuscrit pour l'acuité, la véracité, la vraisemblance de sa mise en fiction du monde judiciaire. Cette fois, Véronique de Haas nous précipite dans les maisons closes de l'entre-deux-guerres où les meurtres de prostituées se multiplient dans l'indifférence des autorités. Le chanteur syrien Sabah Fakhri, légende de la chanson du monde arabe, est mort. Il avait 88 ans, originaire d'Alep, célébré pour sa voix puissante et sa présence scénique. Il s'était fait connaître en revisitant le répertoire des poètes arabes classiques et contemporains, ainsi que les chants traditionnels comme les Mouachahat andalous et les Koudoud alpins. Performeur infatigable, il était capable de chanter pendant des heures, comme à Caracas en 1968, où il avait battu un record en restant 10 heures d'affilée sur scène.
De vin, de poésie, de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous.
Baudelaire à l'honneur de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Dès aujourd'hui, l'institution propose, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'écrivain au Spleen, une grande expo consacrée à sa modernité mélancolique. Manuscrits, livres, dessins, photos, œuvres d'art. En tout, plus de 200 pièces sont réunies au sein d'un parcours thématique pour explorer les grands axes de sa poésie, la mélancolie du non-lieu, l'image fantôme ou encore la déchirure du moi, à découvrir jusqu'au 13 février. Allez !
Je peux te poser une question?
C'est quoi ta vie sentimentale?
Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit.
Et enfin, mercredi de Frima, direction le cinéma. Car aujourd'hui, dans les salles, outre votre film Michel Leclerc, on s'arrête aux Olympiades. La nouvelle livraison au noir et blanc graphique de Jacques Audiard, qui était notre invité jeudi dernier. Plongée irrésistible au cœur des amours urbaines d'une génération désenchantée, dont les désirs se dessinent à l'ombre des tours de béton. Un nouveau tour de force cinématographique réalisé avec la complicité scénaristique de Léa Missius et de Céline Sciamma. On y va. Cinéaste Michel Leclerc, invité de Boomerang ce matin pour Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, un film à la gloire d'un lieu, on l'a compris, la maison d'enfants de Sèvres. Qu'est-ce qui, sur le plan pédagogique, fait de cet endroit un lieu d'exception?
Ben, c'était un lieu où des enfants fracassés par la vie arrivaient et on les considérait. C'est-à-dire que c'est un lieu où Goéland et Pingouin, Yvonne et Roger Agnoer, sont parvenus à leur redonner leur estime d'eux-mêmes. Par la démocratie, par exemple, par l'autogestion, c'est-à-dire que dès le départ, la maison de Sèvres s'est appelée la Petite République. Ça veut dire que les mômes, ils avaient des tas de, il y avait le préposé au théâtre, il y avait le préposé à la discipline.
Et avec une conception de la liberté aussi. Vous dites qu'un lieu comme celui-ci, il serait inconcevable aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, je vais donner des petits exemples, par exemple. Je sais pas, c'est une ancienne qui me racontait ça l'autre jour. Donc, par exemple, ils partaient en forêt à 15 km de Sèvres avec des collégiens, donc enfin des gamins de 13-14 ans. Et puis, elle les laissait au milieu de la forêt en leur disant, eh ben, rendez-vous ce soir.
Rien ne va.
Voilà.
Rien ne va.
Voilà. Il y avait aussi c'était une vie aventureuse. Alors, évidemment, qui a commencé en pleine guerre. Donc là, c'était vraiment l'aventure. Mais je pense qu'ils prenaient aussi beaucoup la guerre comme un jeu, comme dans la chanson de Barbara, vous voyez, c'était et évidemment c'était un jeu sérieux pour le coup, mais ça a continué après, donc il y avait toujours cette idée de liberté.
Et que pour apprendre aussi, il faut prendre des risques.
Il faut prendre des risques, et voilà. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'interroge beaucoup par rapport à mes enfants, c'est-à-dire l'idée que la société, et c'est une bonne chose, veut absolument protéger les enfants du moindre risque, mais est-ce qu'on leur apprend à prendre des risques, ce qui est quand même quelque chose d'important dans la vie. Et je sais bien que c'est difficile notamment que à l'école, on apprenne aux enfants à prendre des risques, mais ça serait bien d'y réfléchir un peu.
Ce qui frappe à la maison d'enfants de Sèvres, Michel Leclerc, c'est l'incroyable mixité sociale aussi qui y régnait. Cette mixité, qu'est-ce qu'elle raconte pour vous?
C'est-à-dire que c'était une mixité, c'est le destin qui a réuni tous ces enfants là, et qu'effectivement tous ces enfants n'étaient pas de la même origine, n'étaient pas du même milieu social, et ils étaient juste unis par le malheur. Mais ça les a unis, c'est-à-dire la reconstruction, elles l'ont faite ensemble, pierre après pierre. Quoi.
Évidemment, vous me voyez venir, parce que l'idée de mixité dans l'école publique, c'était le cœur d'un de vos derniers films, La lutte des classes, avec Leïla Bekti et Édouard Vert. Quel enjeu politique est-ce que c'est pour vous, la mixité, en fait? Qu'est-ce que ça rend possible?
Pour moi c'est fondamental et c'est très important. Par exemple à l'école aujourd'hui, des enfants de milieux sociaux et de cultures différentes ne se rencontrent pas à l'école, ils ne se rencontreront pas adultes. L'école c'est fait pour sortir du milieu de sa famille et pour moi et rencontrer l'autre. C'est-à-dire l'autre qui pense pas de la même manière que soi.
C'est la possibilité de la contradiction et du débat aussi.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire voilà, c'est vraiment ça de s'engueuler, il y a pas de problème, mais au contraire, il faut pouvoir continuer à s'engueuler. Parce que si on et à l'école aujourd'hui, on le voit bien, il y a une séparation de plus en plus de fait, une séparation communautaire, une séparation culturelle, une séparation sociale qui, pour moi, est assez catastrophique.
Vous dites c'est une mission de l'école, c'est aussi fondamental dans votre cinéma. Quand est-ce que vous avez compris que le cinéma et la fiction particulièrement rendaient possible l'expression d'idées contradictoires?
C'est un truc de schizophrène. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que j'avais plusieurs personnages en moi qui pensaient des choses différentes.
Ah non. Non, parce que les invités de Boomerang qui nous disent ça, on en a pas mal et c'est un problème.
Je suis désolé, mais je pense que c'est ça, l'écriture, elle vient souvent là d'essayer d'éclaircir une pensée confuse ou alors des mauvaises pensées. Moi, je me dis toujours ça, je me dis quand il y a mauvaise pensée, il y a potentiellement bon sujet de film. C'est-à-dire quand on se sent un peu poisseux, quand on se sent un peu mal de penser quelque chose. C'est comme ça souvent que les idées de film naissent chez moi, c'est par les mauvaises pensées. C'est très cateau comme truc, mais ouais.
Et ça serait, la force d'une image de cinéma reposerait aussi possiblement là-dessus?
Ah oui, en tout cas, la contradiction, un élan qui vient en contrarier un autre. Moi, pour moi, c'est ça le cinéma.
À quelles images est-ce que vous pensez, là, de films que vous avez pu voir quand vous étiez petit, avec votre mère, possiblement? Il faut nous donner à voir.
C'est vrai que je pensais par exemple à un film comme Cabaret.
De Bob Fosse.
Je pensais à cette scène qui commence par un petit enfant dans une fête de village qui se met à chanter une bluette mélancolique et bucolique, et c'est très joli, c'est très mignon, et puis progressivement les gens autour sur les tables d'à côté se mettent à chanter avec lui, c'est très joli, c'est très mignon, et puis à un moment donné la chanson s'intensifie, devient un peu martial, il commence à chanter fort, les visages commencent à se déformer, il filme des gens un peu rougeaux, etc. Et puis à un moment donné, il y en a un qui se lève, qui chante très fort et qui se met à faire le salut nazi. Et là, cette petite scène bucolique devient un film d'horreur pour moi. C'est-à-dire que c'est une métaphore, voilà, de l'arrivée au pouvoir du nazisme. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'on pense comme voir une séquence très charmante et on arrive à une séquence d'horreur.
Et ce qui est intéressant dans cette scène, c'est aussi le silence. En l'occurrence, on y revient, le silence des autres.
Oui. Et j'ajoute, et c'est très important, c'est que la scène se termine par un plan d'un très vieil homme qui est le seul à ne pas chanter,
voilà.
Qui regarde les autres, voilà. en se disant quelle honte. Et si, enfin, moi, c'est ce que j'interprète.
Et si ce qui fait la puissance du cinéma, c'est aussi qu'il permet de se passer de mots, parfois, Michel Leclerc.
Absolument. Dans cette scène-là, par exemple, tout est dit sans aucun mot à travers une chanson bucolique. Et voilà, cet homme, pour moi, incarne vraiment ce vieil homme, l'esprit de résistance, l'esprit d'indépendance. On se dit, c'est le seul être libre de cette séquence.
Passionnant. On va en reparler ensemble, évidemment, juste après Françoise Hardy, si vous le voulez bien, en 1966. La maison où j'ai grandi, sur l'album du même nom. Vous êtes sur France Inter avec Michel Leclerc, Boomerang, évidemment.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses, je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras ici, on ne voit pas. savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé et me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais? D'elle et de mes amis, plus une trace. D'autres gens, d'autres maisons ont volé leur place là où vivaient des arbres. Maintenant, la ville est là.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Alors il n'est ni pingouin ni goéland, il est plutôt pélican, avec son air un petit peu perché, son sourire géant, son cheveu blanc, tout en pantalon vert. C'est suffisamment rare dans Boomerang pour être noté, et ça vient, me dit-il, de l'équipe de foot de Saint-Étienne de 76. Le cinéaste Michel Leclerc, invité de Boomerang pour ce documentaire Pingouin et goéland et leurs 500 petits, un film où vous vous emparez quand même, on l'a compris, d'une matière sensible, douloureuse sur le plan intime et collectif. À partir de cette matière-là, comment on fait pour trouver le ton juste, Michel, pour éviter l'emphase, pour éviter le pathos aussi, parce que c'est un enjeu fondamental du film?
Oui, bah en essaye, ça c'est vraiment la question que je me suis le plus posée, en essayant d'avoir une narration libre, en essayant de le construire le film comme un peu comme un film d'aventure, avec des rebondissements, avec des personnages, et en essayant aussi d'intégrer l'interrogation et le doute à l'intérieur de la structure du film.
Et ça implique un cinéma de l'hybridation, du mélange, du métissage en fait.
Absolument, je pense que c'est très moi j'aime bien le bordel. J'aime bien que mes films ça soit si possible un joyeux bordel, et je trouve que c'est assez cohérent avec mes personnages principaux qui sont Yvonne et Roger, parce que finalement c'était un joyeux bordel, cette maison de Sèvres. Donc voilà, je voulais faire un film à leur image.
C'est intéressant parce que c'est bien de liberté dont vous nous parlez dans Pingouin et Goéland et leurs 500 enfants, de la construction d'un espace de liberté malgré tout. Ça tient à quoi pour vous la liberté, Michel Leclerc?
C'est ne jamais se conformer à, de toute façon c'est très banal ce que je vais dire, à des idées toutes faites sans y réfléchir avant. C'est-à-dire, moi ce qui était le plus important dans ce film, c'est de faire ressortir aussi l'itinéraire politique de ces deux personnages, de faire ressortir, parce que vu de loin ça a l'air complexe, parce qu'on en a peut-être pas assez parlé, ils ont été pacifistes, oui. Et puis ensuite ils ont ouvert cette maison de Sèvres sous le haut patronage du régime de Vichy, et ils ont utilisé cette couverture pour sauver pas mal de gens, et ensuite à la libération ils ont été emmerdés parce qu'on les a accusés d'être des collabos et tout ça. Et je voulais faire ressortir la ligne claire que eux, en fait, ils étaient sur une ligne qui était toujours la même, que j'ai toujours trouvé très cohérente, et que c'est les vents dans lesquels ils se sont trouvés qui étaient contraires.
Et la liberté, ça peut aussi être un luxe. parfois. Vous appelez Michel Leclerc. Quelle liberté est-ce que ça vous a donné, vous, dans la vie?
Ah, énorme, énorme. Enfin, moi j'ai souvent pensé que parfois c'était un handicap, parce que quand on a un nom aussi banal, j'ai des milliers de gens qui s'appellent le même nom que moi, on se dit, forcément, il a une histoire banale. Mais c'est aussi une bonne couverture.
C'est-à-dire que la question du nom et du surnom, c'est très important dans le film, et c'est très important dans toute votre œuvre aussi.
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que le nom, c'est la porte d'entrée à l'identité de quelqu'un. Et 10 fois, ça peut être la mauvaise porte d'entrée. Et moi, j'aime bien. Un nom, c'est pour se montrer, mais c'est aussi pour se cacher.
C'est un texte en lien avec le prénom que vous avez donné à votre fille, que vous avez choisi de nous lire ce matin. La lettre du poète et résistant Missak, dit Michel Manoukian, fusillé en 1944. Pourquoi ce texte?
Parce que ce texte est totalement bouleversant. C'est quelqu'un qui l'écrit à quelques heures d'être fusillé. Et bon, je sais que ça parle encore de la guerre et tout ça, mais c'est pour moi un texte aussi qui est très tourné vers la vie. Vers la vie, vers le soleil. Il parle de la nature, il parle de... Et il a aucune haine. Et pour moi, c'est un texte, quand je l'ai lu il y a très longtemps maintenant, que j'ai toujours trouvé totalement bouleversant.
On vous écoute.
Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Ça m'arrive comme un accident dans ma vie, j'y crois pas, mais pourtant je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération, en soldat volontaire, et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand ou contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix, en fraternité, après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant, pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens, toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur, à mes neveux. Après la guerre, tu pourrais faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de libération. Avec l'aide des amis, qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits, qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne, et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil, et c'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous. Ma bien chère femme, mes bien chers amis, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari. Manoukian. Michel. Oui, moi, ça me bouleverse énormément.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette lettre?
Elle raconte son attachement à la vie, à ce qui est beau dans la vie. Évidemment, aussi, ce que je retiens, c'est qu'il était étranger, qu'il était arménien, et qu'il meurt pour l'amour de la France, du pays, de la liberté, de ce qui était pour lui sa France, quoi. Et voilà, on avait écrit avec Baya cette... Baya Kasmi, dans le nom des gens, de dire au fond, il y a que les étrangers qui méritent d'être français. Et voilà, moi je pense à lui souvent. On pense souvent à lui.
Et c'est un hymne aussi à la fraternité, à l'amour des autres, il me semble, cette lettre.
Et puis aussi au refus de la haine dans cette situation, dans la situation dans laquelle il est, il pense encore à ne pas haïr. Et ça, c'est quand même assez bouleversant. Et aujourd'hui, je pense qu'on a plus que jamais besoin de ne pas haïr.
En quoi, et ce sera ma dernière question, Michel Leclerc, faut-il beaucoup aimer les gens pour faire du cinéma?
Il faut au moins les comprendre, ceux avec qui on n'est pas nécessairement d'accord. Moi, je pense que le cinéma ne peut pas être un tract. Le cinéma est là pour aller voir du côté des défauts, aller voir du côté des gens qui ont des mauvaises pensées.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, votre beau documentaire, sort aujourd'hui. C'est un film bouleversant, plein de joie, de lumière, de fantaisie. Un film qui vous ressemble, je crois aussi. Tout de suite, les Merci. Médias, la facétieuse Eva Rock et son instant M, c'est juste après ça.
Merci beaucoup.
Les arguments et les baisers, je sais j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher au milieu des torrents de médiocrité.
Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller. J'ai l'alarme fatale, mais j'ai rien oublié. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Oh, elle est pas belle la vie. Oh, elle est pas belle. Par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de leurs idées.
La vie me fait mal avec ses coups de dés. Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait.
Oh, elle est pas belle la vie.
Julien Doré, Eddy de Préto, Larme Fatale, et 9h40 sur France Inter, Eva Rock, l'instant M. Ça va, Eva?
Ça va très bien, Augustin, et vous, hein?
Ah, bah, toujours bien, moi, quand je vous ai au téléphone. Oh. Ça n'est pas le téléphone, c'est la radio.
Ouais, c'est comme si on se retrouve demain. Bonne journée, Augustin.
À demain, salut.